l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. À l'approche de la campagne nationale de vaccination qui débute demain, les seringues sud-coréennes qui seront utilisées pour l'injection sont sur toutes les lèvres. Le président sud-coréen Moon Jae-in a récemment visité l'usine de l'entreprise Punglim Pharmatech qui en fabrique et a loué l'excellence des produits en affirmant qu'ils contribuent à la prévention contre l'épidémie. Mais pourquoi ces seringues sont-elles si spéciales ? Ces injecteurs sont appelés seringues LDS, sigle de Low Dead Space ou faible espace mort en français. Leur particularité réside dans la structure permettant de minimiser la quantité de vaccins gaspillés. Les seringues ordinaires ont un espace entre l'aiguille et le cylindre qui est rempli de liquide vaccinal. Même si on pousse le piston jusqu'au fond, le reste du vaccin ne sort pas et finit par être jeté. Les nouveaux types de seringues ne sont pas dotés d'une embase, la partie où l'aiguille est fixée, permettant d'extraire jusqu'à la dernière goutte. Il existe aussi des types qui ont toujours une embase, mais avec un joint transformé. Selon l'administration des aliments et des médicaments, quand on remplit une seringue de 1 ml, 70 microlitres de liquide restent à l'intérieur, soit 0,07 ml. Or, les appareils LDS ont seulement 25 microlitres comme résidu. L'entreprise sud-coréenne China Corporation a réussi à baisser le chiffre jusqu'à moins de 5 microlitres. C'est-à-dire que grâce à cette technique, avec un flacon du vaccin, on peut injecter pour 6 doses au lieu de 5. Ces seringues économes ont été inventées à la base pour l'administration des remèdes chers ou dont la production n'est pas suffisante. Selon le directeur de China Corporation, Pang Sang-hyuk, les premières seringues qu'il a fait fabriquer servaient à injecter des solutions pour la maladie des reins aux États-Unis en 1995. Plus tard, ces modèles ont été principalement utilisés pour l'injection d'insuline pour les patients diabétiques. Leurs prix sont de 1,5 à 2 fois plus chers que les seringues ordinaires. Ces firmes viennent de conclure un contrat avec le gouvernement pour fournir 12,5 millions d'unités pendant 5 mois. Son concurrent, Doowon Meditech, de son côté, va en acheminer 25 millions. Le Japon, qui a lancé la campagne de vaccination avec le produit de Pfizer la semaine dernière, ne s'est pas procuré ses seringues et il est contraint de gaspiller 12 millions de doses, ce qui a attiré les foudres du public. D'après Pang, les acheteurs japonais sont nombreux à contacter sa société, mais à cause des autorisations, l'exportation n'est pas une mince affaire. Le gouvernement japonais, de son côté, a demandé l'achat de 80 millions de seringues à Punglim Pharmatech. Les jeunes salariés se plaignent de plus en plus de l'évaluation du personnel des entreprises. La semaine dernière, sur un forum anonyme des employés, bon nombre d'internautes ont réprimandé le système d'évaluation du personnel de la firme Kakao, qui fournit le service de messagerie instantanée le plus populaire du pays. Ce qui a suscité leur ire était que la société montre aux salariés le nombre de leurs collègues qui ont répondu ne plus vouloir travailler avec eux. Un internaute a dénoncé cette méthode qui alimente la méfiance au sein de l'organisation. Pourtant, l'entreprise s'est justifiée en disant que ce dispositif avait été appliqué en 2016 à la demande des employés pour renforcer l'objectivité et l'équité de la gestion des ressources humaines. Comme on le voit dans cet exemple, il n'est pas rare de voir les travailleurs critiquer en public leur entreprise concernant le système de récompense et de promotion. Car grâce aux réseaux sociaux, il est désormais facile de comparer le salaire et les avantages de chaque entreprise. Certains imputent ce changement d'ambiance à l'augmentation du nombre des milléniaux et de la génération Z dans le milieu du travail. Selon un cadre d'une grande entreprise, ces jeunes générations ont tendance à considérer l'évaluation du personnel comme une note scolaire. Ils ne supportent pas d'obtenir une mauvaise évaluation alors qu'ils ont fait des efforts. D'après un autre responsable des ressources humaines, les jeunes tendent à se concentrer sur le profit à court terme plutôt que d'obtenir une promotion en travaillant longtemps. Ils considèrent la récompense comme quelque chose de normal et donc demandent des critères clairs sur le système de salaire et de primes. Par ailleurs, le télétravail, qui a gagné du terrain dans le sillage de la pandémie, a ajouté encore des soucis au département des ressources humaines. Mais de quoi s'agit-il ? Alors qu'auparavant, on pouvait connaître ouvertement l'attitude au travail et la performance des autres salariés, à présent, seuls les gestionnaires peuvent avoir accès à ce genre d'informations. Il arrive donc que les employés ne soient pas convaincus du résultat de l'évaluation. De plus, avant le coronavirus, les réunions et les soirées étaient une occasion de partager le mécontentement lié au travail et dissiper les malentendus. Mais ces jours-ci, avec le manque de communication, les conflits entre les travailleurs se multiplient. Dans un contexte où une récompense appropriée est devenu essentiel pour attirer des employés qualifiés, le paysage de la gestion des salariés a aussi évolué. Dans le passé, les responsables notifiaient le résultat de l'évaluation et l'entretien représentait une procédure purement formelle. Mais ce n'est plus comme avant. D'après un cadre d'une société de TIC, ce dernier a passé une heure à s'excuser auprès d'un employé pour ne pas avoir pu augmenter son salaire de plus de 10%. La fuite de la main-d'œuvre qualifiée est vue comme résultant de l'incompétence des gestionnaires. Par ailleurs, certaines start-up tentent de recourir à une nouvelle méthode pour l'évaluation. Par exemple, l'une d'entre elles offre plus de points aux employés qui montrent le plus d'ambition pour leur future performance plutôt que de s'appuyer sur les exploits du passé. Les enseignants masculins sont de moins en moins nombreux dans les établissements scolaires. Selon le service statistique de l'éducation de Corée, en avril dernier, les femmes ont représenté 77% des instituteurs d'école primaire. Dans les années 80, la proportion d'hommes était beaucoup plus élevée que le sexe opposé. Mais la courbe s'est inversée et les enseignants ont dépassé 50% en 1990. La situation n'est pas très différente dans les autres structures. Les femmes représentent 70,5% des enseignants au collège. Et 54,7% au lycée. Dans ce contexte, certains appellent à rééquilibrer le ratio des sexes dans le monde de l'éducation. Le système de quotas des enseignants de sexe masculin est un sujet qui revient souvent. En 2007, l'association des recteurs a demandé son introduction au ministère de l'Éducation, mais celui-ci l'a rejeté du fait que la plupart des universités de pédagogie restreignent déjà le taux maximum d'un sexe de leurs nouveaux élèves à entre 60 et 80%. Un an plus tard, le rectorat de Séoul a réclamé la même chose, mais la discussion n'est pas allée plus loin en raison du manque de consentement social. Les avis sont partagés dans le milieu éducatif. Écoutons l'opinion de Kim, maîtresse d'école de 26 ans. Selon l'institutrice, elle ne voit pas vraiment le besoin des enseignants de la gente masculine et aucun parent d'élève ne s'en est plaint. Dans son établissement, les hommes représentaient seulement 10% de l'effectif. Concernant l'argument que la pénurie d'instituteurs masculins empêche les enfants d'apprendre les rôles des sexes de manière équilibrée, la jeune enseignante a indiqué qu'il est vrai qu'ils ont moins d'occasion de voir comment un homme se comporte, mais qu'on n'apprend pas que les rôles des femmes à l'école. Pour elle, ce qui est important, c'est de rencontrer diverses personnes en dehors des rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes. Par contre, des fois, les enseignants masculins sont plus efficaces pour apprendre la discipline. Il arrive qu'un élève ayant un trouble du déficit d'attention écoute mieux les adultes hommes. Les experts conseillent de résoudre les problèmes fondamentaux plutôt que d'élever le taux des hommes artificiellement. Selon le porte-parole d'une association des enseignants, il faudrait améliorer les conditions de travail des instituteurs pour attirer plus d'hommes dans les établissements scolaires. La professeure de l'université de Gyeonggi, Yoon Kim Ji-young, de son côté, incite à comprendre la raison de la surreprésentation des femmes dans ce secteur. Selon elle, la maîtresse est considérée traditionnellement comme un métier idéal pour les femmes en ce qu'il leur permet de remplir les tâches ménagères tout en gagnant des revenus. De plus, comme la prise en charge des enfants fait partie des tâches des institutrices de l'école, les habitants ont tendance à considérer que ce poste doit être occupé par des femmes. Pour l'universitaire, il est donc crucial de briser les préjugés sexistes d'abord.
Retrouvez toute l'actualité de toute la Corée sur notre site internet world.kbs.co.kr/French, sans les trois W devant.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société sous le jour, en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 25 février. Le district de Gosang, dans la province de Gyeongsang du Sud, a récemment conclu un accord international avec la Mongolie pour la protection des vautours, espèces menacées de disparition. Cette convention vise à favoriser les échanges entre les chercheurs des deux pays sur ce sujet. On n'en recense que 20 000 dans le monde. Parmi eux, 2 000 oiseaux quittent la Mongolie et atteignent la Corée du Sud en novembre pour hiberner jusqu'au mois d'avril. Gosang est fréquenté par 800 oiseaux. Les vautours sont les nettoyeurs de la nature et ont un caractère pacifique. À l'occasion de la signature de la convention, deux vautours qui ont été soignés pour blessures et épuisement ont été relâchés. Gosang mène des activités pour préserver ces rapaces depuis plus de 10 ans. Le directeur du siège social de l'association de protection des oiseaux de Corée et les habitants distribuent des graisses de porc dans les rizières pour les aider à passer l'hiver depuis 1999. À compter de 2006, l'administration de l'héritage culturel et la municipalité de Gosang y ont participé en subventionnant ce projet. La ville compte mettre en place un centre de protection des vautours dans un parc écologique cette année et donner des nourritures à ce site qui est plus sécurisé que les champs à partir de 2024. Par ailleurs, comme ces oiseaux migrateurs traversent la Corée du Nord pour arriver au sud, la ville prévoit de mener le projet d'études sur les vautours pour la paix intercoréenne et le tourisme écologique. Pour ce faire, elle a demandé une collaboration à la Fondation de la coopération intercoréenne de l'économie et de la culture. Les petits cordonneries qui se trouvent dans les rues principales des quartiers animés disparaissent petit à petit. À Séoul, le nombre de ces stands, larges de 3,3 mètres carrés, a diminué de 70 en 2 ans pour atteindre 940 l'année dernière. Selon le journal Seoul Economic Daily, Yoo Jun-chol, 75 ans, qui gère son commerce à Jonglo, en plein cœur de la capitale sud-coréenne, a déploré n'avoir accueilli des clients que 5 jours sur 22 le mois dernier. Auparavant, il devait changer de chiffon pour cirer les chaussures en cuir tous les jours, mais ces jours-ci, il utilise le même pendant 2 semaines. En 1989, l'année où il s'y est installé, la cordonnerie faisait partie des commerces très populaires auprès des employés. À l'époque, il fallait payer 22 millions de won, soit 16 300 euros, à l'ancien locataire pour obtenir une place de service. Cependant, les choses ont changé. À mesure que l'ambiance des entreprises devient plus détendue, les travailleurs portent de moins en moins le costume et mettent davantage de chaussures casual, comme des baskets qui n'ont pas besoin de se faire lustrer. S'y ajoute la tendance des jeunes à acheter une nouvelle paire de chaussures plutôt que de faire réparer les vieilles. L'épidémie de coronavirus a jeté de l'huile sur le feu. Avec la démocratisation du télétravail, les rues sont devenues désertes. Du coup, il est difficile de trouver des clients. Auparavant, les salariés confiaient leurs chaussures en partant prendre leur déjeuner. De plus, les employés avaient l'habitude de faire cirer leurs souliers avant les réunions importantes ou les rendez-vous avec les clients. Mais dans le sillage de la pandémie, la grande partie de ces rencontres se réalise sans contact. Face à cette situation, la municipalité de Séoul a réduit l'année dernière le loyer des stands de moitié jusqu'en juin prochain. Pourtant, certains artisans ne sont pas optimistes. Pour eux, sans compter l'impact du coronavirus, le secteur est déjà sur le déclin et ils seraient la dernière génération à exercer ce métier. Selon Jang Yeon-ju, cordonnière de 61 ans, elle ne peut pas abandonner cet endroit qui empeste le cirage parce que c'est son lieu de vie. Mais il est indéniable que cette profession disparaîtra bientôt en phase avec le courant de l'époque. Un internaute a récemment publié sur un forum internet le visage d'un client de taxi opéré par son père qui n'a pas réglé son tarif, avec le titre « Un clodo qui n'a pas payé le taxi ». Il a mis en ligne la vidéo de la dashcam dans laquelle on peut voir clairement à quoi ressemble et comment s'est habillé le passager. Selon l'auteur, trois hommes ont appelé le taxi et un l'a pris pour rentrer chez lui à Incheon. Dès qu'il est monté dans le véhicule, il a baissé son masque sur le menton, ce qui a dévoilé ouvertement son visage. Dès que la voiture est arrivée près de la destination, il a demandé au chauffeur de rouler autour de chez lui pendant plus d'une minute en le faisant changer de direction. Enfin, il a décidé de descendre en disant qu'il allait revenir tout de suite avec le liquide. Comme le conducteur était réticent, le passager l'a rassuré en disant que la centrale de réservation de taxi avait son numéro. Il a même ajouté qu'il était trop âgé pour s'enfuir. Pourtant, il n'est jamais revenu et son portable était éteint où il n'a pas répondu. La somme qu'il devait payer était d'à peine 20 000 won, soit 15 euros. D'après l'internaute, au-delà de la question de l'argent, son comportement insensé et effronté a blessé toute sa famille, et c'est pour cette raison qu'il a écrit ce post. Il a même dévoilé une partie du numéro de ce passager. Cette publication a déclenché un tollé des autres internautes. Certains ont conseillé de le dénoncer à la police et de ne pas supprimer la photo du délinquant. En revanche, d'autres craignent que, quoi qu'il en soit, la publication de l'image du client joue un rôle contre le fils du chauffeur sur le plan juridique. À en croire les experts, même si le passager a commis des fautes, rendre public ses données personnelles peut être considéré comme une diffamation ou une violation du droit à l'image. Mais si cet acte avait pour but de défendre l'intérêt public, son caractère illicite pourrait être rejeté.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Comédie, musicale, peinture et art médiatique sont au programme de cette édition, séparément mais ensemble aussi, à travers notre premier événement qui mélange concert et peinture autour de la vie du célèbre peintre impressionniste Vincent Van Gogh. Alors ne quittez pas pour tous les détails, bon plan de sortie, c'est parti. Un spectacle retraçant en musique et en peinture le parcours de Vincent Van Gogh intitulé « Pour Vincent, le léopard du Kilimandjaro » sera présenté le 7 mars au Lotte Concert Hall à Séoul. Ce concert, animé et commenté par le chroniqueur artistique Yoon Sang-in, proposera au public une immersion dans la vie du peintre néerlandais autour de quatre thèmes, Londres, les Pays-Bas, la France et enfin le léopard du Kilimandjaro. L'acteur de comédie musicale No Yoon et Arts Ensemble, un groupe composé de cinq jeunes musiciens, vont interpréter des morceaux de musique classique et populaire spécialement choisis pour l'occasion, dont les marches militaires Pomp and Circumstance d'Edward Elgar, l'ouverture de Tannhäuser de Wagner ou encore la chanson populaire coréenne Le léopard du Kilimandjaro de Jo Young-pil. En fond de scène seront projetés des extraits de films d'animation La Passion Van Gogh, réalisé en 2017 par Dorota Kobiela et Hugues Welshman à partir d'étoiles du peintre. Myeongdong Romance, une comédie musicale qui fait revivre le monde littéraire et artistique coréen des années 1950, sera à l'affiche du Yes 24 Stage à Séoul à partir du 13 mars jusqu'au 20 juin. Son Ho est un fonctionnaire de 27 ans qui travaille dans le centre de services communautaires du district de Myeongdong à Séoul. Il est impliqué dans un projet de rénovation du quartier. Alors qu'on est en 2021, il est propulsé par une force mystérieuse en 1956 au cas fée qui s'appelle Myeongdong Romance. Durant son voyage dans le passé, le jeune homme fait la rencontre de plusieurs artistes et littéraires coréens de l'époque, dont le peintre Lee Jong-sop, le poète Park In-hwan ou encore la littéraire John Hae-lin. Présenté pour la première fois en 2015, ce spectacle est écrit par Jo Min-hyang, composé par Choi Seul-gi et mis en scène par Kim Min-jang. La peintre et illustratrice Hye Gang présente son exposition personnelle intitulée « Une jeune fille au Joguri Rose » au Sunshine Studio situé à Nonsan dans la province de Chungcheong du Sud. L'événement qui a débuté le 1er février durera jusqu'au 30 juin. Hye Gang, de son vrai nom Kang Hye-jung, réalise des peintures et des illustrations mêlant tradition coréenne et modernité et privilégiant une atmosphère douce aux teintes pastel. Elle est connue du grand public notamment pour son livre de coloration basé sur l'histoire de Mr. Sunshine, une série télévisée coréenne à grand succès diffusée en 2018. Lors de cette exposition, on pourra découvrir une vingtaine d'œuvres de l'artiste issues de son ouvrage Mr. Sunshine, ainsi que de sa série Une jeune fille au Joguri Rose. Joguri désigne une veste traditionnelle coréenne. Et enfin, pour terminer, une exposition de l'artiste Cha Ji-liang intitulée Afterlife se tient jusqu'au 31 mars au Seoul Citizen Hall, un espace dédié à l'organisation d'événements pour les citoyens situé au sous-sol de l'hôtel de ville de Séoul. Cette exposition réunit un ensemble d'œuvres d'art médiatiques créées par l'artiste en s'inspirant de ses voyages et de ses séjours dans des lieux éloignés de son lieu de vie habituel. Né en 1983 à Séoul, Cha Ji-liang est spécialisé en art médiatique, en sculpture et en installation. Son travail s'intéresse notamment aux individus au sein des systèmes contemporains. Il a réalisé de nombreux projets participatifs ou collaboratifs sur des thèmes spécifiques dont Korean Refugees, New Home ou encore Temporary Enterprise. Voilà, cette édition de Bon Plan de Sortie est maintenant terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atleni au micro, Ijeon à la rédaction, avec Yoon Umi à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.